إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous reprenons l'étude du livre intitulé « La pureté du tawhid bénéfique » de l'imam al-Maqrizi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et la semaine dernière, nous avions fini l'étude de l'introduction de cette épître. Et aujourd'hui, incha'Allahu ta'ala, nous allons passer à l'explication de ce qu'a mentionné l'imam al-Maqrizi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc l'auteur commence son épître en disant « Bismillahirrahmanirrahim » Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé son livre par la basmala, comme les savants ont l'habitude de le faire. Et ils font cela pour prendre exemple sur le Coran, car toutes les sourates du Coran commencent par la basmala, à part sourate le repentir. Également, pour prendre exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il commençait par la basmala lorsqu'il envoyait des lettres au gouverneur pour les appeler à l'islam. Comme ce fut le cas lorsqu'il envoya une lettre à Héraclius, l'empereur romain. Par conséquent, les savants nous disent que commencer les choses importantes par la basmala est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut même dire que c'est une sunna des prophètes en général. Car le prophète Suleyman alayhi salam commença par la basmala lorsqu'il envoya une lettre à la reine de Saba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate An-Naml: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ô notable, une illustre missive m'a été remise. Elle provient de Suleyman qui dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite, l'auteur nous dit, Rahmahullah, il est celui qui me suffit. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui me suffit. Et ceci est l'un des résultats et l'un des profits de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah suffit largement à qui placera sa confiance en lui. Par conséquent, celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit largement. Il sera apaisé quoi qu'il arrive, car il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires. Tu ne l'entendras pas se plaindre, car il sait qu'il ne lui arrive que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et il a la ferme conviction que son affaire dépend uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le dit dans le verset 131 de sourate Al-A'raf, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Lorsqu'un bien survenait, il disait: cela nous est dû. Et lorsqu'un méfait les frappait, ils en attribuaient le mauvais sort à Moussa alayhi salam et ses compagnons. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la plupart ne savent pas. Au contraire de celui qui a tendance à s'en remettre aux causes et qui a des manquements dans sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'entendras souvent se plaindre, perdre patience et être confus, car il ne sera pas apaisé. L'éminent savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans Majmou' al-Fatawa, après avoir cité le verset 2 et 3 de Sourate le Divorce, il dit: les gens ici se sont divisés en quatre catégories. Puis il dit concernant la deuxième catégorie, je cite: d'autres appartiennent à la catégorie de ceux qui souhaitent adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il a ordonné et en délaissant ses interdits. Mais ils ne s'en sont pas remis à Allah et ne lui ont pas demandé son aide. Ils ont alors été incapables d'accomplir bon nombre des actes qu'ils souhaitaient accomplir et ont perdu patience dans beaucoup d'épreuves qu'ils les ont atteints. Fin de citation. Et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration immense qui a des profits indénombrables. Et il est très important de savoir que cette adoration repose sur deux points. Le premier point est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que le deuxième est de faire les causes, même si elles sont minimes. Cependant, il ne faut pas s'en remettre aux causes. Il faut plutôt s'en remettre à Allah et avoir la ferme conviction que c'est Allah qui va nous faciliter et non les causes. Et malheureusement, bon nombre de personnes, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, s'en remettent plus aux causes. Et cela va parfois les pousser à délaisser ou encore retarder certaines adorations. Prenons l'exemple de la hijra. Beaucoup de musulmans connaissent l'obligation de la hijra et que le musulman doit vivre en terre d'islam. Néanmoins, tu trouveras que beaucoup d'entre eux résident encore en terre de mécréance, malgré qu'ils connaissent l'obligation de la hijra. Et lorsque tu vas leur parler de la hijra, la plupart du temps, Ce sont toujours les mêmes phrases qui reviennent. Il faut beaucoup d'argent pour faire la hijra et rester en terre d'islam. Il faut construire une maison pour pouvoir se stabiliser en terre d'islam. Il faut absolument un métier avant de faire la hijra. Il faut impérativement une voiture et beaucoup d'autres phrases similaires. Cependant, tu n'entendras que très peu qu'il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remettre à lui. Et pour beaucoup, s'ils ne possèdent pas ce qu'on a mentionné précédemment, il n'y aura pas de hijra. Et ceci n'est qu'une preuve, parmi tant d'autres, qui nous montre que beaucoup de ceux qui retardent la hijra ou l'ont délaissée, s'en remettent aux causes. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de placer notre confiance en lui. Il dit dans le verset 58 de sourate al-Furqan: wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt point. Et dans d'autres versets, il a même considéré la confiance en lui comme un signe d'être véritablement croyant. Il dit dans le verset 23 de sourate Al-Ma'ida: Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah seul que vous devez placer votre confiance si vous êtes réellement croyant. Et lorsqu'on médite sur la situation des prophètes, on remarque qu'ils plaçaient leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes leurs affaires et dans chaque situation. Ils avaient tellement confiance en Allah que rien ni personne ne pouvait ébranler leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète Moussa alayhi salam: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, les compagnons de Moussa alayhi salam dirent: nous voilà rejoints. Moussa alayhi salam dit: jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Malgré que tout prêtait à croire que Pharaon allait réussir à s'en prendre à Moussa et à Benou Israël, Moussa alayhi salam avait la certitude qu'Allah allait le faciliter et lui accorder une issue favorable. Et ce fut le cas, car Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Nous inspirâmes alors à Moussa alayhi salam: frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, laissant apparaître plusieurs chemins, chacun de leurs bords semblable au versant d'une immense montagne. Nous fîmes approcher Pharaon et son peuple jusqu'à ce qu'ils pénètrent au milieu des flots. Nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui l'accompagnaient, puis engloutîmes les autres. Ceci, chers auditeurs, est la voix des prophètes. Et bienheureux celui qui suivra leur voix. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah: louange à Allah, Seigneur de l'univers, La bonne fin est réservée aux pieux. Qu'Allah prie sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ici, nous remarquons que l'auteur a mentionné la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant mentionner le salut. Alors que ce qui est connu des pieux prédécesseurs est de citer les deux ensemble. Et quelqu'un pourrait se demander, quel est le jugement de citer l'un sans l'autre? Et la réponse à cette question est que les savants ont divergé à ce sujet. Et certains savants sont d'avis que cela est détestable. Ils se sont basés sur le verset 56 de Sourate Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Ensuite l'auteur nous dit « Ceci étant dit, voici un livre rempli d'enseignements profitables, dont certains sont des raretés inestimables, et qui bénéficiera à celui qui recherche l'agrément d'Allah et la demeure de l'au-delà. Je l'ai appelé le livre de la pureté du tawhid bénéfique. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'aide par sa grâce à accomplir ce travail. » Donc ce livre traite de l'unicité de l'adoration. Et l'imam al-Maqrizi est le premier à avoir consacré un livre entier à l'unicité de l'adoration. Et dans cet épître, on retrouve beaucoup de paroles de Cheikhul Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ensuite, il dit « Sache qu'Allah est le Seigneur de toutes choses, son maître et sa divinité. » Le mot « Rabb », donc on traduit par « Seigneur », et le nom associé au verbe « Rabba ya Rabbu Rabban » qui veut dire « éduquer ». Il est donc celui qui éduque. Lorsqu'Allah dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin »« Louange à Allah, Seigneur de l'univers », cette parole a pour sens « celui qui éduque l'univers ». Et certes le Seigneur est le Créateur, celui qui a donné l'existence à ses créatures, et s'occupe de les éduquer et de les réformer. Il se charge de leur procurer ce dont elles ont besoin et qui leur est profitable, la création, la subsistance, la santé, une religion parfaite et un monde d'ici-bas arrangé pour y vivre. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite l'adoration, seul sans associé, car il est le seul à créer, à donner la vie, le seul à donner la mort, et également le seul à donner la subsistance. Ensuite, l'auteur nous dit, le fait de prendre Allah pour divinité signifie que les serviteurs l'aiment et l'adorent, et qu'ils l'unifient par l'amour, la peur, l'espoir, l'humilité, le repentir, le vœu, l'obéissance, la demande, le fait de placer sa confiance et autre chose de ce genre. Ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, parle de l'unicité de l'adoration, qui consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala par nos actions, c'est-à-dire par nos adorations. Et l'éminent savant Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah a défini l'adoration comme étant un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Et les actions du serviteur sont de trois types. Nous avons tout d'abord les actions du cœur, telles que la peur, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité et la crainte. Ensuite, nous avons les actions des membres, telles que la prière, le jeûne, le pèlerinage. Puis pour finir, nous avons les paroles avec la langue, comme le fait de dire « La ilaha illallah ». Et l'ensemble de ces adorations doivent être vouées exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. La réalité du tawhid est de voir que toute chose vient d'Allah, de façon à ne plus se tourner vers les causes ni les moyens. Il s'agit de voir que le bien et le mal ne proviennent que de lui. Cette parole n'est pas tout à fait correcte, car ce que l'auteur a mentionné ici correspond uniquement à l'unicité de la Seigneurie. Par conséquent, cela reviendrait à dire que la réalité de l'unicité est l'unicité de la Seigneurie. Et ceci est la croyance de certaines sectes, comme les soufis et la secte qu'on appelle Al-Asha'ira, qui considèrent l'unicité de la Seigneurie comme le but ultime que le serviteur doit atteindre s'il veut être parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ceci est faux, et cela pour plusieurs raisons. La première est que les polythéistes d'antan reconnaissaient la Seigneurie, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont rentrés en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ » Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront « Allah ». Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Et le savantissime Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre intitulé « Les quatre règles », la première règle est que tu saches que les mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus reconnaissaient qu'Allah le Très-Haut est le Créateur, le Pourvoyeur et celui qui administre tout, et que cela ne les fit point entrer en islam. La deuxième raison est que si l'unicité de la Seigneurie était le but ultime, les prophètes l'auraient pris comme base de leur prêche. Alors que lorsqu'on regarde leur prêche, on remarque qu'il était basé sur l'unicité de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّارُوتِ » Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Par conséquent, il serait plus juste de dire que la réalité du tawhid consiste à ce que rien ne soit associé à Allah dans les caractéristiques qui lui sont propres, comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, car ceci englobe les trois catégories de tawhid. Donc en résumé, lorsque l'auteur nous dit « la réalité du tawhid » et de voir que toute chose vient d'Allah, de façon à ne plus se tourner vers les causes, ni les moyens, il s'agit de voir que le bien et le mal ne proviennent que de lui, ceci concerne uniquement l'unicité de la Seigneurie. Et Cheikh Yassine Al-Adani, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionna que la raison pour laquelle l'auteur a commis cette erreur et qu'il prit cette parole du livre intitulé Ihya Ulum ad-Din, de celui qu'on appelle Al-Ghazali. Or, celui-ci est connu pour ses nombreuses erreurs dans cette branche de la science. Ensuite, l'auteur nous dit « Et quand la personne aura concrétisé cela, c'est-à-dire l'unicité dans la Seigneurie, elle placera sa confiance en Allah, cessera de se plaindre aux créatures ou leur faire des reproches, agréera son Seigneur et se soumettra à ses ordres. » En effet, lorsque la personne aura concrétisé l'unicité de la Seigneurie, qui consiste à unifier Allah par ses actions, telles que la création, la subsistance et autres, il placera sa confiance en Allah et cessera de se plaindre aux créatures ou leur faire des reproches, car il aura la ferme conviction que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient son affaire et il se rappellera que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété tout ce qui lui arrive. Par conséquent, il sera apaisé et se soumettra au destin. »